Chapitre 14. Installée à la table de cuisine, Rainy écoutait le cliquetis des griffes de Lucas sur le carrelage. Le berger allemand faisait des allers-retours dans la fraîcheur du sous-sol. Elle n'entendait pas Charla, mais cela n'était guère surprenant. L'adolescente préférait le silence. Tout pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Charla lisait, écoutait de la musique avec ses écouteurs, jouait sur son iPad, tout cela dans le plus grand calme. Rainy, Quincy et Charla étaient capables de passer des soirées entières dans le salon, chacun le nez dans son livre ou sur son écran, sans faire le moindre bruit. Au début, ce calme avait inquiété Rainy. Mais désormais, elle choisissait de le voir comme quelque chose de confortable. Encore un point commun grâce auquel leur future fille adoptive leur ressemblait étonnamment, à elle et à Quincy. Ils étaient des êtres casaniers qui aimaient le silence. Rainy se leva et tourna autour de la table. Elle venait de s'entretenir au téléphone avec Brenda Leavitt, l'assistante sociale de Charla. Cela avait pris un peu de temps, mais Rainy avait fini par obtenir quelques renseignements sur le passé de la jeune fille. Son interlocutrice avait aussi promis de se renseigner sur les précédents placements de Telly et de revenir très vite vers Rainy. Celle-ci était à cran, les nerfs en plotte. Certes, elle croyait ce qu'elle avait dit à Charla. Sa fille n'avait pas à s'inquiéter de Telly. C'était leur boulot, à elle et à Quincy. Mais d'un autre côté, son propre passé lui avait enseigné que le pire était possible, et même probable. À vrai dire, plus l'adoption de Charla et le moment où elle deviendrait vraiment leur fille approchaient, plus l'anxiété de Rainy s'était aiguisée. Les dénouements de contes de fées, les familles aimantes, c'était pour les autres, se disait-elle souvent. Dans son cas, de tels cadeaux du ciel restaient inaccessibles. Mensonge, se rappela-t-elle alors. Elle avait Quincy, Charla et Lucas. Elle avait un travail passionnant, une belle maison, une vie formidable. Simplement, elle avait aussi ses démons. Des démons qu'il lui fallait combattre tous les jours, vaincre tous les jours. Tel était le lot d'une alcoolique. D'où le coup de foudre qu'elle avait eu pour Charla dès leur rencontre. Elle avait regardé sa future fille dans les yeux et elle avait lu en elle, comme dans un livre ouvert. Les peurs de Charla, ses angoisses, son fragile espoir, sa force viscérale. Rainy avait vu sa fille tout entière. Et elle l'avait aimée, non pas malgré ses faiblesses, mais à cause d'elle. Charla était une battante, comme Rainy et Quincy. Et il n'était pas question que Rainy laisse un assassin, ce grand frère perdu de vue, foutre sa famille en l'air. Son téléphone sonna. Elle consulta l'écran, pensant que c'était Brenda Leavitt qui la rappelait. Mais c'était le shérif, Shelley Atkins.
« On a du nouveau »,
dit celle-ci sans préambule. Rainy et Quincy travaillaient avec Shelley depuis sa première élection. Échanger des civilités n'était pas leur fort.
« On a retrouvé le téléphone de Telly Reinach. Il contient des photos de Charla. » Daté d'il y a 5 jours.
Rainy s'arrêta net. Elle sentit son cœur sursauter dans sa poitrine et ses poings se serrer par réflexe. Prenant une grande inspiration, elle s'obligea à se rasseoir à la table. « Il y a 5 jours », répéta-t-elle. Elle essayait de réfléchir. Que faisait-il il y a 5 jours? Était-il à la maison, en sortie? Et comment une policière avertie comme elle n'avait-elle pas remarqué qu'un jeune voyou mitraillait sa fille?
Les photos ne sont pas de très bonne qualité, sans doute prises avec le téléphone et agrandies. Dan Mitchell va vous en envoyer une copie par email. Il a reconnu un des bâtiments à l'arrière-plan, la bibliothèque.
Exact. 5 jours plus tôt, Rainy avait emmené Luca et Charla à la bibliothèque de Bakersville. Luca participait au programme d'été « Un chien pour lire ». Le but était d'inviter les enfants en difficulté à faire la lecture à voix haute pour des auditeurs à 4 pattes, ce qui était à la fois plus amusant et moins stressant pour les apprentis lecteurs. « D'accord, » dit Rainy.
« Vous avez parlé de son frère à Charla ?»
Elle n'a pas été en contact avec lui depuis la nuit du meurtre de leurs parents. Et elle ne garde de lui qu'un souvenir assez vague. Elle n'avait que 5 ans quand ils ont été séparés.
« Et du côté des emails, des textos, quelque chose que vous n'auriez pas vu ?»
Rainy sourit. « Le forfait téléphonique de Charla est lié au mien. Je suis en copie de tous ses textos. Et nous contrôlons régulièrement sa messagerie. » Ce n'est pas de tout repos d'être parent de nos jours.
Rainy, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais le téléphone de Telly a été vidé. Il a effacé l'historique de navigation, supprimé les photos de sa galerie. Toutes, sauf celle de Charla. comme s'il tenait à ce qu'on les voie, à ce qu'on sache qu'il l'avait épié.
Rainy se figea. Son cœur faisait de nouveau des bonds dans sa poitrine. Elle sentait monter le pic d'adrénaline, une réaction de panique instinctive face au danger. Elle avait eu raison d'avoir peur dès le début. Le pire était en train de se produire. Encore une grande inspiration. Raisonner comme Quincy. En pareille circonstance, sa logique sans faille était aussi sécurisante qu'elle pouvait être irritante. « Avez-vous progressé sur la localisation de Tilly ?» demanda Rainy. Elle parlait d'une voix raisonnablement posée. Encore une inspiration pour se calmer. Puis elle quitta la table pour gagner le bureau de Quincy au bout du couloir et le coffre-fort où ils entreposaient leurs armes.
Un pisteur, Cal Noonan, a retrouvé sa trace. Depuis le parking de la station-service, Tilly est partie vers le nord et il semblerait qu'il soit entré dans un lotissement résidentiel. Une poignée de maisons, des terrains immenses. Ils sont en train de sonder le secteur.
Rainy hocha la tête, décrocha la photo de la fille aînée de Quincy, puis posa son index sur le lecteur biométrique. La porte du coffre-fort s'ouvrit. L'arme personnelle de Rainy était un Glock 42, mais ce pistolet était trop volumineux pour être porté discrètement avec sa tenue estivale. Elle choisit donc plutôt son 22 de secours. Quincy portait son arme dans un étui de cheville. Rainy préférait coincer la sienne au creux de ses reins. Plus accessible, pensait-elle. Il s'est passé plus de 4 heures depuis la fusillade de la station-service.
Exact.
Et personne n'a encore aperçu le suspect? L'avis de recherche et le numéro d'appel dédié n'ont rien donné?
Rien.
Bref, il se peut qu'il soit encore à pied dans ce lotissement. Mais il pourrait aussi avoir volé un autre véhicule et avoir filé rancard à un ami. Il peut être absolument n'importe où.
Je confirme.
L'avantage d'une conversation entre membres des forces de l'ordre. Ni l'une ni l'autre n'avait à mentir.
« Je peux affecter un policier à votre protection rapprochée, »
proposa le shérif. « Et réduire le nombre d'agents qui recherchent un fuyard armé ? Non merci, on a la situation sous contrôle ici. » Rainy ne disait pas cela uniquement parce qu'elle était désormais armée ou que sa fille était flanquée d'un chien policier, mais parce que Quincy avait conçu la maison en songeant précisément à ce genre de situation. Les baies étaient positionnées de sorte à offrir des perspectives dégagées et l'allée de gravier était en elle-même un système d'alarme. Rainy avait ses angoisses et ses démons. Quincy avait les siens. J'ai discuté avec l'assistante sociale de Charla, reprit Rainy. Charla affirme qu'elle se souvient très peu de ses parents ou de son grand frère. Pour être franche, nous n'avons jamais posé beaucoup de questions sur Tilly et sur les raisons pour lesquelles il était sorti de sa vie. Mais avec les événements de ce matin, Rainy n'avait pas besoin de voir le shérif pour savoir qu'elle hochait la tête à l'autre bout du fil. D'après Brenda Leavitt, Charla justifiait les agissements de Tilly cette nuit-là. Et le procureur, Tim Egan, a fait évaluer les deux enfants par une psychiatre judiciaire. Sa conclusion a été que Tilly avait joué un rôle maternant auprès de sa sœur. Il lui préparait son petit déjeuner, l'emmenait à l'école, ce genre de choses.
Il aimait Charla ?
Oui, d'après le rapport psychiatrique. Mais c'est là que ça se corse. Quand on lui a confié le dossier, Brenda Leavitt a réalisé son propre entretien avec Charla qui était en convalescence à l'hôpital. Comme Tilly avait aussi frappé sa sœur, dans le feu de la colère, estimait la psychiatre, Brenda voulait s'assurer que Charla se voyait encore sans problème vivre avec son frère. Les services sociaux séparent rarement les fratries. Ils ne le font que s'ils considèrent que c'est dans l'intérêt des enfants.
Je vois.
Or, chaque fois que Brenda interrogeait Charla sur son frère, la gamine devenait très agitée et n'arrêtait pas de répéter qu'il la détestait. Pour finir, Brenda s'est inquiétée de voir que Charla avait peur de Tilly. Elle s'est dit qu'il risquait de nouveau de s'en prendre à elle. D'où la recommandation de placer les deux enfants séparément.
Donc, c'est Charla qui a coupé les ponts, si on peut dire.
Observa Shelley. Oui. Mais je ne sais pas à quel point Tilly l'a su. Il n'avait que 9 ans à l'époque et son propre traumatisme à gérer.
N'empêche, vu de chez Tilly, on pourrait se dire qu'il a tué ses parents pour sauver sa sœur, tout ça pour qu'elle refuse définitivement de le voir.
Ce n'est pas faux. Et si l'on en croit le rapport de la psychiatre judiciaire, après toutes ces années et les efforts que Tilly avait faits pour prendre soin de Charla et la protéger...
Son rejet a dû être d'autant plus difficile à encaisser. En fait, ça a dû le mettre sacrément en rogne.
Certes, constata Rainy. Brenda va me fournir une liste de toutes les familles d'accueil par lesquelles Tilly est passée, mais ça ne sent pas bon. Depuis qu'il a perdu ses parents et sa sœur, il a été d'un endroit à l'autre. Tendance antisociale, trouble oppositionnel avec provocation. C'est un adolescent profondément perturbé. Shelley poussa un gros soupir.
Est-ce que ça va être une de ces affaires où tous les voisins diront au journal télé « Je savais que ce gamin était de la mauvaise graine » et ainsi de suite?
Possible. Brenda connaissait la précédente famille d'accueil de Telly. La femme n'avait pas un bon contact avec lui. Elle le trouvait trop taciturne. Il faisait ce qu'on lui disait, mais elle s'est toujours un peu méfiée de lui. Pour reprendre ses termes, elle avait peur qu'il les assassine dans leur sommeil.
Super.
On leur a retiré Telly en raison d'accusations de vol. De petits objets disparaissaient aux quatre coins de la maison. Telly ne s'est jamais défendue. Sa conseillère de probation est venue le chercher et il est parti. Direction la maison des Duval, j'imagine. Mais des mois plus tard, la famille a retrouvé les objets disparus. Il y avait chez eux quatre enfants placés et on s'est aperçu que c'était un autre qui chapardait, qui faisait de l'accumulation compulsive en fait. On a tout découvert dans une boîte sous le lit du gamin. Ils s'en sont voulu d'avoir accusé Telly, mais pas au point de réclamer son retour.
Donc, un adolescent furieux et introverti, qui a grandi dans une famille violente et tué ses parents à l'âge de 9 ans, qui a été rejeté par sa petite sœur, sans doute la seule personne qui ait jamais compté à ses yeux, et auquel le reste du monde n'a ensuite accordé aucune chance.
Les tueurs fous ont souvent une liste de personnes à abattre, observa Rainy. Tous ceux qui leur ont un jour ou l'autre fait du tort.
Je vous envoie un agent, sérieusement.
Et vous allez aussi en envoyer un à toutes les familles qui ont rejeté Telly? Au directeur de lycée qui l'a renvoyé, aux camarades de classe qui se moquaient de lui? La liste des gens qui ont fait du tort à Telly est trop longue, vos effectifs n'y suffiront pas. Le retrouver, voilà ce qu'il faut faire. Le localiser, l'interpeller.
J'ai une équipe de pisteurs à ses trousses. Et ensuite, je dois rencontrer Ali Sanchez, sa conseillère de probation. Histoire de voir ce qu'elle peut nous dire de l'état d'esprit de Telly et de la personnalité des Duval. Si Telly est du genre rancunier, allez savoir ce qu'ils ont pu faire pour qu'il explose.
Est-ce que Quincy peut se joindre à vous? J'aimerais en faire autant, mais je dois rester avec Charla.
Je ne refuse jamais les lumières d'un profileur. Surtout dans une affaire où les zones d'ombre sont encore légion.
Envoyez-moi les photos.
C'est en cours.
Rainy retourna dans la cuisine. Elle s'arrêta pour guetter le bruit des griffes de Luca. Et ne l'entendant pas... Charla? Appela-t-elle vivement. Oui? Sa fille apparut un verre de citronnade à la main, Luca à ses côtés. Et une fois de plus, Rainy demanda à son cœur de se calmer et décrispa sa main autour du combiné. Charla, il faut qu'on parle.